France Inter.
Salut Fred, enfin, un autre Fred, merci pour toutes ces émissions, c'est vraiment triste que ça s'arrête, tu vas me manquer, tu étais ma bouée d'été, mon bancaille pour affronter cette période de juillet, merci pour tout, j'espère vraiment qu'il y aura une autre décision et que vous allez continuer. Allez, à bientôt, salut.
Salut Blockbuster, merci beaucoup pour toutes ces émissions, notamment celle avec tous ces merveilleux comédiens de doublage. Je voulais les remercier de nous proposer des versions françaises de si grande qualité. Je suis ASH et j'ai eu une enfant qui est dyslexique, donc il ne pourra jamais lire des sous-titres pour les films. Donc c'est très important d'avoir des magnifiques VF pour qu'elle puisse voir des films, des séries, des animations japonaises et tout. Donc merci encore à eux et merci à toi Frédéric. Et je suis très triste que cela s'arrête. Mais en espérant te revoir bientôt sur d'autres ondes. À bientôt.
Écoutez-moi, que je vous prenne à éternuer et ma parole, je vous mouche le nez.
Salut Frédéric, c'est Solène. J'étais en train d'écouter l'émission sur James Gunn et du coup, ça m'a fait penser que Sean Gunn a un rôle extra dans Gilmore Girls, donc je suppose que vous allez en parler aujourd'hui. C'est une de mes séries préférées que je regarde avec ma fille. Voilà, parce que elle, c'est un peu Rory et je suis un peu Lorelai. Voilà, bonne émission et merci encore et c'est vraiment dommage que ça s'arrête.
To be or not to be, not to be.
Je connais de nombreuses femmes qui élèvent seules leurs enfants. Bon, alors, je connais aussi beaucoup de femmes en couple qui élèvent seules leurs enfants, mais ça, c'est un autre débat. Et c'est un sujet que je connais bien. Non pas parce que je suis ceinture noire de mansplaining, soyez rassurés, hein, je vais pas enchaîner sur un édito sur l'endométriose, les maillots de bain menstruels ou le congé maternité, hein, je laisse ça au Sénat. Si je parle de ça, c'est parce que j'ai été élevé par une femme seule. J'ai vu ce que ça a coûté en temps, en énergie, mais aussi en argent à ma mère d'élever un enfant sans aide, tout en ayant l'impérieuse nécessité de travailler. Une mère seule, ça devient une agence d'intérim à elle toute seule. La charge mentale, ça devient de la surcharge mentale. Ma mère a fait tout ce qu'elle pouvait avec les moyens du bord. Donc aujourd'hui, quand je vois des mères seules, qui en plus d'un quotidien écrasant, se mettent des critères inatteignables d'éducation bienveillante, qui lisent des tonnes de livres de développement personnel sur comment être une bonne maman tout en restant une femme indépendante et épanouie qui fait du yoga le matin et son compost le soir, j'ai envie de leur dire « Mais lâchez l'affaire, vous en faites déjà tellement !» Je vous assure qu'après 3 nuits de 12 heures en tant qu'aide-soignante, à l'hôpital, ma mère, elle négociait pas avec moi pour que je range ma chambre ou que je me lave les dents. Hein. Une mère seule avec un gosse, dans les années 80, c'était une Bene Gesserit dans Dune qui utilise la voix. Elle parle, t'écoutes. Pas parce que t'as peur, hein, mais parce que t'as compris que t'es dans la même galère qu'elle. Dans un foyer monoparental, t'as pas le choix. Tu dois faire équipe avec un collaborateur qui n'a pas encore l'âge de conduire. Donc à toutes les mamans du monde, et les mamans seules, vous faites déjà un taf extraordinaire. Élever son enfant toute seule, c'est déjà suffisamment compliqué, sans avoir en plus besoin de se faire culpabiliser par des gourous de la pensée moderne qui ont fait élever, la plupart du temps, leur môme par des nounous sous-payés.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
You're not buying us a DSL.
Pas question d'ADSL.
Lorelai, on verra ça plus tard.
Désolée, c'est tout vu, j'ai annulé la commande.
Mais Rory a besoin d'Internet pour ses études.
Nous avons Internet.
Celui-ci est plus rapide.
Nous, on aime que notre Internet soit lent. On lance la recherche, on peut marcher, on peut danser, se faire un sandwich. Avec ADSL, pas question de danser ni de marcher et on crève de faim. C'est le boulot sans s'amuser. Tu nous veux vraiment autant de mal.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle.
Autre chose, il n'y aura aucune voiture, aucune place de parking et son uniforme sera payé uniquement par moi, sa mère. Arrête là, je n'accepterai aucune discussion.
Tu fais ta tête de mule comme d'habitude.
Non, je ne fais pas ma tête de mule comme d'habitude. Je veux être moi. Je suis capable à la fois de résoudre mes problèmes personnels et de m'occuper d'elle parce que c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je suis née.
Je crois que je suis sèche.
J'ai apprécié le geste généreux que tu as eu pour Rory de lui payer ses études. N'oublierai pas que c'est toi. Il n'y a pas intérêt. Seulement, c'est ma fille. Et notre vie, c'est moi qui en décide et pas toi.
Now then.
Et maintenant,
do they validate parking here?
C'est ici qu'on valide des tickets de parking?
Tu trouveras un tampon à la caisse.
Thank you.
Je te remercie.
L'avantage de ce sondage de dernière saison de Blockbuster, c'est que j'ai eu la bonne surprise de tomber sur des sujets auxquels je n'aurais jamais songé par moi-même. Gilmore Girls en est un parfait exemple. Une série qui jouit d'une popularité énorme, des marathons ont lieu tel un rituel chaque année, mais à côté duquel, je l'avoue, j'étais totalement passé, toutes mes excuses, je suis une caricature de mec. Gilmore Girls raconte la relation complice de Lorelai Gilmore et sa fille Rory, mais pour en parler, je suis entourée par des vraies expertes. Marianne Lévy, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes scénariste et romancière et votre dernier ouvrage, Les Comédies Romantiques, est paru dans la collection Photographie Cinéma de Gallimard.
C'est correct.
Avec nous de retour, Océane Zerbini, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes la créatrice du podcast Lemon Adaptation Club.
Tout à fait.
Et avec nous également, Pauline Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous avez publié en 2022 Utopie féministe sur nos écrans aux éditions Daronne.
Tout à fait.
Joyeux anniversaire, petite fille.
Ah, bonjour.
Je ne peux pas croire que tu aies grandi aussi vite.
Ah oui? Moi, je trouve pas.
Crois-moi, ça a été rapide. Comment tu la trouves, ta vie, dis-moi?
Je la trouve plutôt bien.
Pas de réclamation?
Je déteste la pluie, si tu pouvais faire quelque chose.
D'accord, je m'en occupe.
J'ai pris un coup de vieux.
Oh oui. Tu peux aller te choisir quelque chose chez Denise. Tu as crédit illimité.
C'est gentil.
Je vais te dire une chose.
Quoi?
Tu es une fille absolument géniale et la meilleure amie qu'on puisse rêver d'avoir.
Pareil pour toi.
Un extrait du sixième épisode de la série Gilmore Girls créée par Hermie Sherman-Palladino, Lauren Graham joue Lorelai Gilmore et Alexis Bledel interprète Rory. Elles sont respectivement doublées en français par Nathalie Régnier et Noémie Orphelin. Océane Zerbini, vous avez la lourde tâche de résumer Gilmore Girls, s'il vous plaît.
Waouh, alors combien de temps j'ai du coup?
Allez, je vous laisse le temps que vous voulez.
Vous l'avez très bien dit, hein, c'est l'histoire de Lorelai Gilmore, qui est une mère célibataire qui élève seule sa fille Rory dans la petite ville fictive de Stars Hollow, donc une ville un peu bucolique avec des arbres orangés toute l'année.
C'est l'automne toute l'année.
C'est l'automne toute l'année, c'est absolument formidable, le pouvoir de la fiction américaine. Et donc on suit un peu leur quotidien, donc avec Rory qui rentre dans une école privée avec Lorelai qui se débat un peu pour savoir quelle influence pourrait avoir sa mère dans sa vie. Donc sa mère qui est extrêmement riche et dont elle s'est un peu...
Oui, parce que Lorelai est partie quand elle avait 16 ans, elle a quitté la famille riche.
Tout à fait.
Et en fait, c'est parce que Rory étant extrêmement douée, elle est à haut potentiel.
On dirait ça aujourd'hui.
Voilà, elle décide de lui faire faire des études, sauf que est aux États-Unis, ça coûte cher et mamie, elle a des sous.
Voilà, donc le point de départ de la série, c'est qu'est-ce qui se passe quand Lorelai décide de ramener ses parents dans sa vie et à quel point ils vont aussi avoir une influence sur le développement de la pauvre petite Rory qui en plus est un petit peu pauvre et qui débarque dans une école privée où tout le monde est très riche et très beau et un peu bully sur les bords.
Marianne Lévy, quand j'ai demandé aux auditeurs et auditrices quel sujet ils voulaient me voir traiter pour cette dernière saison de Blockbuster, Gilmore Girls est arrivé, dans le peloton de tête. Et j'avoue que moi, effectivement, j'étais passé à côté. Donc, qu'est-ce qui a fait que Gilmore Girls est devenue une série phénomène
Ben vous savez, en fait, il faut. C'est pas du tout étonnant et c'est complètement lié à la création de la série. En fait, Amy Sherman-Palladino, elle avait rendez-vous chez Warner, je crois, pour pitcher un certain nombre de séries. Pendant 45 minutes, elle a essayé de vendre des séries aux exécutifs qui étaient en face d'elle et qui avaient un peu faim, qui regardaient leur téléphone, qui bâillaient. Et puis à la fin, on lui a dit mais il n'y a rien d'autre. Et là, elle sort comme ça. J'aimerais bien écrire une série sur une mère et une fille qui sont meilleures amies. Et là, on lui répond, ok, on l'achète. C'est-à-dire que c'est le pouvoir de Gilmore Girls, il est déjà présent à sa création. C'est-à-dire cette idée de traiter de la relation mère-fille à travers le prisme amical, c'est quelque chose qui était inédit et c'est quelque chose qui a un pouvoir manifestement tellement énorme qu'il est capable de greenlighter une série alors que ce n'était même pas un projet. C'est-à-dire que quand elle est sortie de ce meeting, elle n'avait rien, à part un oui. Donc elle a dû créer cette saison, 154 épisodes, à partir d'une idée qu'elle a balancée comme ça, en fond de cours, vous voyez, comme au cinquième set à Roland-Garros. Oui, elle était épuisée, elle a dit « Ah, et si je faisais ça ?» Et on lui a dit oui.
En plus, on connaît les présentations, donc on imagine que si jamais elle l'avait vraiment gardé, c'était le choix de la dernière chance. Bon, bah, puisque vous aimez pas, il y a ce projet-là, mais que je n'ai même pas osé vous proposer parce que vous allez me dire non.
Mais ce n'était même pas un projet, c'était une idée.
Une idée.
Et je pense que ça répond bien à votre question, Frédéric, parce que ça veut dire que ce sujet, la filiation, l'amitié, c'est quelque chose qui a une puissance évocatrice tellement forte. Que finalement, elle permet à Amy Sherman-Palladino de repartir avec une commande, et puis elle explique le succès phénoménal de cette série, en fait.
Pauline Le Gall, comment avez-vous découvert Gilmore Girls, et d'après vous, qu'est-ce qui explique son succès ?
Alors moi, je ne l'ai pas découverte au moment de sa création en 2000. Pourtant, je pense que j'aurais eu le bon âge, j'avais 14 ans, donc j'aurais adoré. Mais je crois que de toute façon, elle a été diffusée en France qu'en 2002. Moi, je l'ai découverte en 2016. En fait, c'est un moment où elle a été diffusée sur Netflix. Et parce qu'ils allaient faire c'est une suite. Allaient faire une saison 8, qui est en fait une mini-série, donc on ne l'appelle pas vraiment la saison 8. Et donc, ils ont mis toutes les saisons sur Netflix. Et là, il y a eu vraiment, je dirais, une nouvelle vague de fans de la série qui ont découvert Starzolo et son pouvoir incroyablement réconfortant. Je pense que ça répond aussi à la question pourquoi cette série marche, parce qu'elle a un côté hyper réconfortant. On est dans cette ville imaginaire. Les gens sont très proches. Il y a vraiment quelque chose de la communauté qui se noue autour de toutes les personnes qui vivent là. Donc voilà, je pense qu'il y a ce côté... doudou, même si j'aime pas trop ce terme, qui marche très bien.
Je suis désolé, je l'ai utilisé tout à l'heure.
Présente toutes mes excuses. Hein,
non, mais oui, non, mais je le savais pas, sinon je l'aurais pas utilisé, je voulais pas vous mettre en.
Bah, je me doute.
Marianne Lévy.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette série de doudou, ou Feel Good, Comfort, ou je sais pas quoi. En tout cas, cette série, la raison pour laquelle on la cite et pourquoi on dit qu'on l'aime, elle est créée par quelqu'un qui ne croit pas du tout en la bonté du genre humain. Amy Sherman-Palladino, elle dit que, en gros, la vie et le monde peut exploser dans 3 secondes. C'est ce qu'elle croit. Et en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que finalement, ce qu'elle arrive à mettre à l'écran, dans l'écriture, les personnages, le vivre ensemble, finalement, je pense que c'était la personne la moins qualifiée, a priori, pour créer ce monde. Et finalement, je pense que ça vient de son grand désespoir. Et finalement, le confort qu'on y trouve, je ne sais pas si ça va, Pauline, cette expression, le confort qu'on y trouve, mais je pense qu'il vient profondément de quelque chose qui est ancré. En fait, c'est une série d'auteurs, c'est ce que j'essaye de dire. Elle a l'air légère, elle a l'air comme ça, une petite série. On ne dirait jamais Gilmore Girls et The Wire. Et pourtant, pour moi, c'est une série d'auteurs. Et Michelle Herman-Palladino est tout entière dans sa série, dans son écriture. Et ça vient finalement de son regard extrêmement sombre sur le monde, cette nécessité qu'elle a ressentie de créer ce monde. Et Starzolo, en fait, ça vient d'une de ses visites qu'elle a faites dans le Connecticut. Elle adore Mark Twain. Elle va visiter la ville dans sa maison. Et elle tombe dans un hôtel, un inn, qui est finalement celui qu'on retrouve dans la série, où tous les gens viennent se servir du café. Vous voyez, en fait, une série culte, c'est une succession de petits miracles et de petites étoiles qui s'alignent. Voilà.
Océane Zerbini.
Oui, c'est intéressant sur Amy Sherman-Palladino, c'est que sur toutes ces séries, il y a une esthétique assez marquée, donc même pour Mrs. Maisel, qui est sa série qui a été diffusée sur Prime Video avec Rachel Brosnan, qui est Lois Lane actuellement.
Lois Lane.
Voilà, et qui a été recommandée par Amy Sherman-Palladino à James Gunn d'ailleurs. Il y a une esthétique très, très rose, très, pas rose fluo, mais très, très douce aussi, alors que ça se déroule dans les années 60. Et justement, ce sont des séries qui cachent très bien effectivement une certaine noirceur et l'idée que tout peut s'arrêter.
Il faut préciser que Fabuleuse Mrs. Maisel, c'est l'histoire d'une femme dans les années 50, donc qui décide de devenir humoriste. Et voilà, évidemment, une femme humoriste à cette époque, déjà en 2025, c'était pas forcément une évidence, mais alors à l'époque, encore moins.
Et mère célibataire aussi. D'ailleurs, il y a cette sensation que dans les séries de cette créatrice, effectivement, même toutes les romances peuvent s'arrêter du jour au lendemain, ce qui donne la sensation un peu au spectateur d'être toujours dans un sentiment un peu d'anxiété, je trouve, un peu d'urgence de se dire autant en profiter cet épisode-là parce que je ne sais pas ce qu'ils deviendront à l'épisode suivant. Et ça, c'est quelque chose d'à la fois un peu épuisant sur le long terme, je trouve, de Gilmore Girls, mais c'est quand même assez stimulant, je trouve.
Et puis il y a quelque chose de très vrai aussi dans les relations humaines. Moi, je pense, c'est pour ça que je pense que c'est une série d'auteurs. ok, Star Zolo, c'est voilà, une espèce de bonbonnière. On ne va pas citer un parc d'attractions avec des grandes oreilles, mais c'est un peu quelque chose comme ça dans lequel on aimerait vivre, un monde merveilleux. Mais en même temps, on parle de Rory et de Loreline, mais il faut parler d'Emily, la grand-mère. Je veux dire, c'est trois femmes qui sont... Il y a des conflits, il y a des choses qui sont très très vraies. En fait, c'est difficile, une relation mère-fille, grand-mère, petite-fille. Et elle est très très juste, en fait, dans ce qu'elle dit. Et c'est, je pense, aussi la raison pour laquelle les gens sont comment dire... C'est comme Friends. Je veux dire, ça parle de la nature humaine, des relations humaines, de la famille, d'une manière qui est très, très, très exacte.
Oui, et il faut aussi préciser que Amy Sherman-Palladino a commencé sa carrière de scénariste sur une série excellente, oui, que pour le coup, j'ai vue, qui s'appelait Roseanne, et qui justement dépeignait avec énormément de véracité la vie d'une famille américaine qui n'a pas beaucoup de moyens, mais c'était drôle, etc., dans lequel il y avait des problématiques assez graves qui pouvaient être abordées, et elle a fait ses armes sur cette série aussi.
Bah, et ça, c'est une excellente école. Et puis, elle est née dans le show business. Sa mère était danseuse. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est...
Et son père était comédien aussi.
Oui, elle est familière de ça. Elle a une générosité incroyable dans son écriture. Elle donne beaucoup à manger aux comédiens. On dit donner à manger, c'est étrange. C'est pas des oiseaux. Mais en fait, dans ses lignes de dialogue, elle a une écriture qui est très particulière, hyper rapide, très, très inspirée du théâtre. Et donc, elle a cette générosité qui fait aussi le succès de la série, parce que ces personnages sont tous très intelligents. Ils ont une répartie incroyable.
Oui, puis ils sont très cultivés.
Mais, ouais.
Alors, Gilmore Girls, c'est avant tout un générique qui donne le la. Et on va l'écouter, Where You Lead, par Carole King. Loving you the way I do, I know we're gonna make it through.
Blockbuster,
Frédéric Sigrist sur France Inter.
Hey.
Hey.
Salut.
Salut.
I'm Rory. Rory.
Yeah, I figured.
Ouais, je m'en doutais.
Nice to meet you.
Ravi de te connaître.
Wow, aren't we hooked on
phonics? Il y en a des bouquins d'enfants ici.
Oh, I read a lot.
Ouais, j'en ai lu beaucoup.
Do you read?
Tu aimes lire?
Not much.
Pas vraiment, non.
I could loan you that if you want. It's great.
Il est génial.
No thanks.
Non, merci.
Well, if you change your mind.
Si tu changes d'avis.
Okay, we really need to get
la seule manière d'obliger Jackson à abandonner ses citrons, c'est de déménager la fête dans le salon. Bien, on arrive.
Ça peut s'ouvrir.
Oh, yeah,
ouais, tu soulèves juste les deux loquets et tu pousses.
Génial, c'est possible.
De quoi faire?
De se barrer.
No.
Non.
Pourquoi?
Parce qu'on est mardi soir et qu'on est à Starzolo. Il n'y a nulle part où on puisse aller. La seule petite épicerie vient de fermer il y a 20 minutes.
Alors on va se balader ou s'asseoir sur un banc à regarder nos chaussures?
Écoute, Suki a fait une tonne de choses délicieuses et je meurs de faim. Tu penses peut-être que ça va pas être drôle, mais je te jure, on va s'amuser. Crois-moi.
Je te connais même pas.
J'ai pas une tête à dire la vérité?
Peut-être.
Ok, good, let's eat.
Alors on y va.
Un extrait du 5e épisode de la saison 2 de Gilmore Girls dans lequel Rory rencontre Jess, le neveu de Luke. Jess est joué par Milo Ventimiglia, Heroes, This Is Us, Rocky, doublé en français par Alexis Thomasian. Pauline Le Gall, on parle de 500 millions d'heures de visionnage sur Netflix pour Gilmore Girls depuis que cette série est disponible sur la plateforme. La version américaine de Marie-Claire a qualifié cette série de comfort show. Et Télérama a dit que Stranger Things était une série qui sentait bon la nostalgie des années 80, mais Gilmore Girls fait la part belle à la nostalgie des années 90. Est-ce que c'est surtout ça, en fait, l'origine du succès de Gilmore Girls? Une nostalgie pour une époque qu'on n'a des fois même pas connue.
Je suis pas sûre. Alors oui, il y a un côté nostalgique, surtout dans l'idée que la série cite beaucoup, en fait. C'est quelque chose d'ailleurs qui est assez commun dans toutes les séries de Amy Sherman-Palladino. Elle adore les références culturelles, mais chez elle, ça va vraiment de la référence la plus pointue à, je sais pas, Björk, jusqu'au film populaire. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très ancré dans son époque. Mais je suis pas sûre que ce soit uniquement nostalgique, parce qu'il y a quelque chose d'assez contemporain quand même dans la série. Je sais que par exemple sur l'aspect féministe qui est beaucoup débattu, je pense qu'on pourra en débattre, mais il y a quand même des choses qui me semblent très contemporaines dans la série. Donc je ne suis pas sûre que ce soit que une idée de s'échapper de la réalité vers les merveilleuses années 90. Voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait
dans
ce visionnage-là.
Je suis d'accord avec vous, hein. C'est aussi l'époque des sacs bananes et ça aurait jamais dû revenir. Je ne lâcherai jamais l'affaire Océane.
Je n'ai rien dit du tout.
Et oui, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, Océane, il y a cette idée de réconfort dans la série, mais la question suivante, c'est se réconforter de quoi? Parce que est-ce que les gens, les millennials, ont plus besoin d'être réconfortés que les générations des années 80 ou 70?
Bah, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que la série essaie d'être un réconfort par rapport aux hommes de manière générale, c'est-à-dire que c'est quand même une série où dans 99% des situations, on prend parti pour les personnages féminins, que ce soit la famille Gilmore, que ce soit pour même Paris, que ce soit pour la meilleure amie de Rory, la pauvre. J'ai pas envie de revenir dessus, c'est vraiment dramatique ce qu'ils font d'elle, ou même pour Suki, hein, à tout hasard, donc, qui est jouée par Melissa McCarthy. Tout à fait. Je dirais que oui, c'est une série aussi idéale à regarder quand on a des peines de cœur, parce que les pauvres Gilmore Girls, elles subissent des peines de cœur à n'en plus finir, quand ce n'est pas attendre pendant 5 ans que le mec du café où elles vont tous les jours réalise que oui, il est amoureux d'elle.
Oui, oui, oui. En même temps...
Il est un peu long à comprendre.
Oui, oui, oui. Et c'est normal, il a des burgers à faire.
Et des cafés aussi.
Et des cafés. Marianne Lévy, le rapport entre Lorelai et sa fille Rory, c'est aussi l'illustration d'une communication intergénérationnelle. Parce que en regardant la grand-mère, Lorelai et Rory, je me suis rendu compte que déjà, on a une sorte de photographie de trois vies de femmes, mais qui ont vécu des existences complètement différentes. Et j'en parlais en préparant cette émission avec Lisiane. Chez des hommes, en fait, il y a un socle commun entre les grands-pères, les pères et les enfants. Mais pour les femmes, surtout sur le siècle passé, c'est trois vies qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres.
Oui, ouais, c'est vrai, effectivement, je n'avais pas vu les choses sous cet angle, mais vous avez raison. Et puis, ces trois rapports à la vie très, très différents. Émilie, c'est vraiment une grande... Enfin, je ne sais pas si on peut parler de bourgeoisie aux États-Unis au sens européen du terme, mais en tout cas, voilà, c'est, elle va au country club, elle est très soucieuse des apparences, elle ne sortirait jamais sans se maquiller. Et en fait, Lorelai, dans la série, c'est l'ado en révolte. Elle est mère, elle a, je sais pas, 38 ans peut-être, ou une petite quarantaine, mais elle a toujours 16 ans par rapport à sa mère. Rien n'est réglé entre elles, alors que les rapports sont inversés. En fait, c'est aussi intéressant de ce point de vue-là, l'ado et la mère de la mère. En fait, Rory prend beaucoup de soin de sa mère. Elle a un côté très très enfantin, Lorelai. Donc c'est une série qui est aussi complexe du point de vue des caractérisations des personnages, des représentations féminines, je trouve.
Pauline Le Gall, tout à l'heure vous avez parlé du fait que l'aspect féministe de la série était débattu, et on a aussi traité d'une série intitulée Ally McBeal il y a une semaine, et c'est exactement le même argument qui avait été soulevé. Est-ce qu'en fait c'est les séries qui mettent en scène au premier plan des femmes sont toujours condamnées à avoir une sorte de procès en légitimité autour du féminisme?
C'est complexe comme question. je dirais que déjà, je trouve ça plutôt sain en vrai qu'on se pose des questions sur ce genre de série. Mais je dirais que c'est plutôt aussi contextuel. Ally McBeal, il me semble que c'est une série quand même assez contemporaine de Gilmore Girls. On était au début des années 2000. C'était quand même une période de backlash un peu anti-féministe. Donc je pense que c'est aussi à la lumière de ce contexte-là qu'on réfléchit à leur féminisme ou non. Donc je ne suis pas sûre que ce soit tant un procès que simplement se demander comment les choses évoluent, comment on aurait pu faire mieux, comment ces personnages sont ancrés dans leur époque. Voilà. Parfois, je pense que ça peut être quelque chose d'assez positif aussi de réfléchir à tout ça, notamment sur Gilmore Girls, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui le découvrent aujourd'hui. Et je trouve ça assez riche de voir ce qu'elles en disent, en fait, de voir ce qui les choque, qui ne sont pas les mêmes choses que nous, qui ne sont pas les mêmes choses que les personnes qui l'ont regardé au moment de la diffusion. C'est en soi aussi un dialogue intergénérationnel.
Oui, et justement, ce dialogue intergénérationnel, il y a un élément qui est absent de Gilmore Girls et qui pourtant a pris une place énorme dans nos sociétés contemporaines. C'est le téléphone portable et Internet. Je trouve ça assez paradoxal, enfin assez amusant de voir que une génération qui utilise énormément le téléphone portable adore une série dans laquelle, à l'entrée d'un café, téléphone portable interdit. comme si en fait le dialogue ne pouvait exister que si on s'échappait, si on interdisait les téléphones portables. Quel est votre avis là-dessus?
En même temps, c'est un peu vrai. J'ai pris le métro pour venir et en fait, c'est toujours frappant de voir que les gens ne se regardent pas. En fait, moi, c'est un truc que je me demande toujours dans ces situations. Enfin, je ne crois pas aux martiens, mais admettons qu'un martien existe et admettons qu'il arrive sur Terre et qu'il prenne le métro pour venir ici. Il verrait que des êtres humains qui regardent leur téléphone. Et en fait, ce que dit la série, ça, c'est à mon sens aussi une des explications de son succès et du produit et de l'effet qu'elle produit sur nous, c'est qu'on a besoin d'être ensemble. Et c'est vraiment un éloge du vivre ensemble, cette série. Dans cette petite ville, tout le monde s'aide, même les gens qui sont un peu désagréables, les voisins un peu machin, les élus un peu contrariants. En fait, finalement, on fait communauté. Et ça me rappelle une autre série qui produit le même effet et qui est extrêmement aimée des séries films. Et c'est Friday Night Lights et oui. Dylan Texas. Stars of Law, c'est Dylan Texas. Je veux dire, c'est plus grave. Friday, c'est plus un drama. Mais il y a quand même cette idée qu'il y a cette communauté qui se regroupe pour essayer d'améliorer la vie des gens. Et comme aujourd'hui, on est quand même dans une société où c'est compliqué, en fait, je crois, de vivre ensemble. Enfin, en tout cas, c'est l'actu, c'est ce qu'on
oui,
entend tous les
jours. Voilà.
Malheureusement, enfin, c'est pas la réalité, mais en tout cas, c'est ce qui revient des actus. Je pense que c'est aussi pour ça que cette génération-là, elle trouve du réconfort dans cette idée, en fait, que les autres peuvent nous aider à résoudre nos problèmes, quoi, plutôt que de nous créer des problèmes.
Oui, c'est intéressant parce que ce constat justement d'une société sans téléphone, à mon sens, explique aussi un peu le succès de Stranger Things, où ils s'amusent à jouer à Donjons et Dragons plutôt que être sur leur téléphone. C'est un peu boomer ce que je dis, mais il y a effectivement...
Non, en 77, vous avez le droit.
Voilà, il y a effectivement quelque chose un peu de une ode à la déconnexion, et justement le premier extrait qui a été diffusé où Lorelai refuse la DSL, c'est justement, bah moi j'aime bien danser, j'aime bien me faire à manger pendant que des choses à la charge. Et c'est vrai que c'est dans ces petits interstices, ces petits moments, effectivement, où on ne fait rien qui soit productif, c'est-à-dire danser dans son salon, c'est pas productif, mais en soi, ça fait du bien à l'âme, en fait. Bien.
Et même dans les rapports humains, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a un shift, même générationnel, même chez des gens qui découvrent Gilmore, chez des vingtenaires, par exemple, qui disent avant, les réseaux, c'était quelque chose de super positif. Et aujourd'hui, quand on entend les gens en parler de cet âge-là, ils disent, en fait, c'est une agression. Donc, il y a aussi quelque chose... Enfin, je suis pas sûre que tu sois une boumeuse, du coup.
J'ai découvert la série il y a 4 ans, en plus, donc j'avais 28 ans. Et déjà, à ce moment-là, ça me paraissait être une utopie. Star Solo, c'est une utopie où il y a à tout casser 500 habitants, il y a juste une petite place au milieu du village, il y a les fêtes des récoltes à chaque automne. Moi, c'était...
Il y a tout le temps énormément de monde aux fêtes.
Exactement. Hein. Ça amène les gens dans le coin.
Alors, on parle de vivre ensemble, et effectivement, on est bien ensemble pour parler de Gilmore Girls, mais pour le moment, on va écouter Jeanne Chéral qui nous interprète Rodrigue.
Blockbuster sur France Inter.
Sors de là !
Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend ?
Qui c'est ce garçon, Lorelai ?
Calme-toi, tu veux, tu es sous !
Quoi, que je me calme ? Alors qu'un garçon tripote ma fille ?
Un garçon tripote Henri ?
Luc !
Hé ! Tu la touches, tu es mort ! Et je suis sérieux, je veux voir tes mains en l'air et pas sur elle, tu entends ? Mains en l'air !
Dehors ! Si j'étais vous, je disparaîtrais par la porte de derrière.
Mais papa ! Et Luc ?
Je m'en charge. Allez, dépêchez-vous, allez, oust !
Vous n'avez pas à vous mêler de ce qui se passe avec Rory.
Désolé, j'ai mon mot à dire.
Vous n'allez pas remettre.
Rory est ma fille, c'est clair, ma fille.
Ah oui. Et où étiez-vous quand elle a eu la varicelle, qu'elle a refusé de manger autre chose que des pommes de terre pendant 15 jours? Où étiez-vous quand elle a été reçue à Yale, qu'elle a commencé l'université 1, qui a transporté un matelas jusque dans sa chambre, puis à l'extérieur de sa chambre, puis de nouveau à l'intérieur?
Oh, pitié, Luc, c'est pas le moment.
Où j'étais ne vous regarde pas en l'occurrence. Rory est ma fille et celle de Lorelai, c'est tout. Fin de la discussion.
Je suis avec Lorelai.
Pour l'instant.
Un extrait de l'épisode 13 de la saison 5 de Gilmore Girls. Scott Patterson joue le rôle de Luke. Il est doublé en français par Patrick Laplace. Quant à Chris, bah Chris il n'existe pas parce qu'on le déteste.
Ou tout le monde déteste Chris.
Bah, Océane, expliquez-nous pourquoi on déteste Chris.
Parce qu'on le déteste. Non, mais plus sérieusement, non, c'est quand même l'exemple du père assez absent et qui pourtant continue à... En fait, c'est comme si une ombre planait un petit peu sur le bonheur de Lorelai et de Rory. C'est-à-dire que même dans son absence, il trouve un moyen d'être présent et d'oppresser les deux femmes Gilmore. Voilà, je n'ai pas d'argument constructif à dire, mais justement, c'est un personnage très intéressant parce que déjà, il y a quasiment tout le monde qui le déteste hein, parmi les fans de la série. Je pense que c'est le personnage le moins aimé. Et puis effectivement, bon, là, c'est plus pour des raisons scénaristiques, mais ce qui se passe dans les dernières saisons entre lui et Lorelai, effectivement, je trouve assez inacceptable. Et on sent que c'est Amy Sherman-Palladino qui n'était plus présente lors des dernières saisons, lorsque la série est passée de la chaîne Warner TV à la chaîne qui s'est appelée la CW, telle qu'on la connaît, telle qu'on la connaissait. Malheureusement, c'est plus trop son type de programme aujourd'hui. Et donc, avec ce changement en fait de chaîne, beaucoup de choses ont créativement bougé. Et le rôle de Christopher, malheureusement, a été beaucoup plus présent qu'il est nécessaire.
Pauline Le Gall, est-ce que vous aussi, vous avez un différend avec Chris?
Bien sûr, comme tout le monde, j'étais en train d'approuver ce que disait Océane. Et puis c'est un personnage qui ne veut pas partir, et ça c'est le pire, il revient sans cesse, vraiment comme une ombre, comme disait Océane, sur la série. On sait qu'il va revenir, on sait qu'il va se remettre avec Lorelai, que ça ne va pas durer. Voilà. Donc c'est frustrant scénaristiquement, mais c'est aussi frustrant dans tout ce qu'il représente en termes de père qu'on ne blâme jamais totalement non plus pour son absence, à part dans cette scène-là avec Luc. Voilà, donc oui, des amours partagés.
Oui, oui, et j'en avais parlé dans une précédente chronique. En général, quand un père absent revient et est présent sur une journée, on en fait un film en disant « Ah, ben regardez, c'est le chemin de la rédemption, ça va rattraper Exactement. Tout le reste ». Marianne Lévy, j'aimerais qu'on parle de l'écriture de Gilmore Girls. Qu'est-ce que vous avez à dire en tant que scénariste sur l'écriture?
Vraiment réaffirmer que c'est une série d'auteurs, ce qu'on vient d'évoquer avec Chris, c'est intéressant parce qu'en fait c'est compliqué la parentalité, ils ont eu 7 enfants, ils étaient très jeunes. Ce que je trouve très 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 intéressant dans Gilmore, c'est en fait la matière première qui est la vérité. Une famille c'est compliqué, une famille recomposée c'est encore plus compliqué, c'est pas facile en fait tout ça, d'être un parent, d'être un couple, et en cela c'est une série qui est très
surtout
authentique.
Que personne vous apprend comment faire en fait.
Voilà, et il y a une forme de sincérité et je pense que ça aussi ça traverse le petit écran et c'est pour ça qu'on l'aime cette série. Après c'est Mozart de l'écriture, Amy Sherman-Palladino elle est virtuose des dialogues. Je pense qu'elle se shoote à l'humanité tous les matins quand elle se lève, quoi.
Et à la culture, parce que s'il y a une série où je trouve que le fait de lire, de prendre le temps de voir des vieux films, c'est quand même une série où on cite Noam Chomsky, où on va citer Melville, il y a du Nietzsche. C'est quand même une série qui revendique une certaine aspiration à la culture de manière générale.
Oui, qui c'est un hommage à l'intelligence, à la soif d'apprendre. Il y a tout ça dans Gilmore Girls qui est vraiment beaucoup moins légère. Et c'est là le génie de Sherman-Palladino, d'ailleurs. C'est qu'elle nous fait croire que c'est une petite chose légère, mais en vérité, elle rentre chez nous, dans nos esprits, dans nos cœurs, et elle affirme des choses qui sont importantes pour elle, même si elle est profondément pessimiste sur le genre humain, mais elle nous modifie. Vous voyez, c'est quelqu'un de pessimiste qui fait de nous des optimistes. C'est quand même incroyable, et c'est la puissance de son écriture.
Et est-ce que politiquement on peut classer la série? Parce qu'il y a quand même 2-3 allusions qui peuvent faire. On voit vers quoi penche Madame Palladino.
Ben, je me disais qu'elle se shootait tout le matin à l'humanité, mais je pense qu'elle se shoote tout le matin à l'humanisme. Après, on ne peut pas lire la série qui est des années 2000 par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce serait, enfin,
oui, bien
on
sûr.
Peut pas. Pour mon plaisir, hier, je regardais une série d'Aaron Sorkin que j'adore, qui est très méconnue, qui est Studio 60 on Sunset Strip. Je la regardais, ça me crevait le cœur. Parce que en fait, quand voilà, j'écoute les infos, ben on n'est plus dans ce monde-là. Donc, je ne pense pas qu'on pourrait lire cette écriture-là par rapport à l'actu d'aujourd'hui. Mais en tout cas, pour pouvoir dessiner des personnages d'une manière aussi puissante, aussi unique, aussi singulière, c'est sûr que cette femme, elle a, enfin, les valeurs qu'elle porte traversent son écriture, c'est certain.
Et ce qui est intéressant, c'est que justement Marianne disait le nom de Aaron Sorkin. Et effectivement, quand j'ai découvert Gilmore Girls, je trouvais que, sans forcément dire que Amy Sherman-Palladino est un Aaron Sorkin au féminin, je trouve qu'il y a quelque chose justement dans les dialogues très, très vifs, dans les tunnels de dialogue qui s'enchaînent, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez similaire entre ces deux écritures-là. Et en fait, c'est, si des jeunes générations de 20 ans nous écoutent, si ils veulent se lancer dans du Aaron Sorkin, je leur conseillerais d'abord du Amy Sherman-Palladino, parce que je trouve que ce sont deux approches du dialogue un peu sacré qui sont, je trouve, assez intéressantes. Et en plus de ça, ce sont quand même deux scénaristes qui était présent d'abord dans les fin 90, un peu plus tôt pour Aaron Sorkin, mais Aaron Sorkin, La Maison Blanche, voilà, on était un peu dans les mêmes années que Gilmore Girls. Et pour tous les amoureux de dialogue, franchement, ce sont deux scénaristes absolument incontournables.
Et humanistes les deux, en fait. En fait, c'est les mêmes valeurs, Sorkin,
oui,
on s'en sort ensemble. À mon sens, hein, ce qu'il a dit, c'est qu'on s'en sort ensemble. Il l'a dit. Enfin, c'est vraiment, c'est une équipe de football, West Wing.
Pauline Le Gall, quel est votre avis sur l'écriture d'Amy Sherman-Palladino?
Moi, j'adore son écriture. C'est vraiment ça qui m'a attirée dans Gilmore Girls. Je pourrais les écouter, juste discuter pendant des heures. Et moi, ça me fait penser à un genre que j'adore, qui est la screwball comédie, qui était très populaire dans les années 30 et 40. C'est un peu un sous-genre de la comédie américaine. Et c'était un genre, en fait, où les femmes avaient une place aussi très importante, avec des actrices comme Catherine Hepburn, et qui avaient ce même débit de parole, très rapide, quelque chose de très intelligent, très vif. Il y a quelque chose d'assez ironique aussi, presque un peu... Je ne sais pas si le mot cynique marcherait, parce que... Mais il y a un peu cette noirceur aussi dont parlait Marianne.
Ah, il y a l'art de la punchline.
Voilà, c'est ça. Voilà, une manière de ne pas non plus se prendre trop au sérieux. Et voilà, je trouve que Lorelai, elle est incroyable. Et moi, je pourrais vraiment l'écouter parler pendant des heures. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans Mrs. Maisel. C'est assez logique qu'elle les reproduit dans le stand-up, parce que ça marche vraiment bien.
On va y venir. On attaque la quatrième partie de cette émission consacrée à Gilmore Girls, tout de suite après Lana Del Rey et Bluebird.
Just shoot for
Blockbuster sur France Inter.
Maman,
stop it, talk to me.
Allez, arrête de me faire la tête.
It's been 2 hours since you've even looked in my direction.
Ça fait 2 heures que tu m'ignores, ça suffit comme punition.
I get it, you're mad.
Bon, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Je suis en colère, je n'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Si tu étais un peu moins butée aussi, laisse-moi. Tu ne voulais pas lui dire, je l'ai fait pour te rendre service.
Est-ce que tu te rappelles la conversation qu'on a eue toutes les deux juste avant de sortir?
Oui, mais est-ce que je ne t'ai pas dit que je ne voulais pas demander de l'aide à mes parents?
Tu me l'as dit, mais...
En fait, je t'ai répété plusieurs fois que pour des raisons qui me sont personnelles, je n'y tenais pas. Alors oui, j'ai peut-être fait le pitre en le disant, histoire d'alléger le sujet. N'empêche que sur le fond, j'étais parfaitement sérieuse.
Bien, n'empêche qu'on a quand même un gros problème.
Oh, tu crois que je ne suis pas au courant? Tu crois que je reste les fesses vissées sur un tabouret de bar à parler de la pluie et du beau temps avec les gens du café? Eh ben non, non, je me prends la tête et je m'angoisse et je cherche sur le net et Dieu sait que je hais les ordinateurs.
Et c'est pourquoi j'ai mis le sujet sur le tapis.
Tu n'avais aucun droit de le mettre sur le tapis.
Pourquoi?
Parce que je t'ai défendu de le faire. Voilà pourquoi. Mais non, il n'y a pas de mais. Je ne veux plus de mais ici. Il y a des pardons, maman. J'ai fait une bêtise, maman. Il y a des jeux de jure, je ne le ferai plus. Mais il n'y a pas de mais, c'est clair. Mais sors d'ici.
Maman.
Va te coucher. Je t'ai assez vu.
Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode 11 de la saison 2 de Gilmore Girls, où effectivement, toute ressemblance avec des situations ayant existé serait purement voulue. Mais l'avantage de vivre à Stars Hollow, c'est qu'on résout ses problèmes, Marianne Levy.
Oui, c'est ça aussi qu'on aime, je pense, dans Gilmore Girls, c'est que c'est un endroit où les gens se parlent après le conflit. Les conflits ne sont pas évités, mais les conflits sont adressés, les gens se parlent, ils sont capables de faire un pas l'un vers l'autre, et puis les choses trouvent une issue. Et ça fait du bien, en fait.
Et justement, en voyant la série, c'est ce qui m'a marqué, c'est que Stars Hollow ressemble à une forme de simulation de réalité alternative, dans lequel effectivement c'est tout le temps l'automne, dans lequel quand on se dispute...
ça sent la neige.
Ça sent la neige, voilà.
Mais ça, c'est très très important, on aime beaucoup la neige à Stars
Hollow. On aime la neige et les décorations de Noël. Mais quand on se dispute, même si on s'est dit des trucs très très graves, on refoule rien. On ne refoule rien, on se dit les choses, on avance ensemble. Et surtout, on mange des burgers et on grossit pas. Parce que non, mais c'est quand même, il faut le dire, le relais et sa fille adorent manger de la junk food, mais elles prennent pas un gramme. Et Luc leur dit, mais ça serait bien de manger sainement, alors que lui, il fait que des pancakes et des burgers toute la journée. Et donc je me suis dit, mais il y a quelque chose de la magie dans ce lieu.
Maybe, je ne sais pas. Je me suis pas posé la question comme ça. J'envisageais plutôt Luc comme un personnage masculin intéressant dans son empêchement, en fait, d'exprimer ses sentiments pour Lorelai, dans sa vulnérabilité aussi. Mais c'est vrai que c'est une série qui donne faim, en revanche.
Pauline Le Gall, est-ce que c'est une série qui vous a donné faim à vous aussi?
Alors, moi, ça m'a un peu agacée. J'avoue qu'elle mange des burgers à longueur de série sans prendre un gramme. Voilà, je vais dire ça. Donc, ça m'a donné faim, mais avec une petite pointe d'aigreur, quand même.
Mais, Océane, on est d'accord que c'est une ville qui n'est pas soumise aux mêmes règles de physique et que nous, humains normaux.
C'est une ville sortie des Sims.
Oui, oui. Voilà. Mais il y a un peu de ça.
Mais, mais c'est exactement ça. Mais justement, je parlais tout à l'heure d'utopie. Effectivement, c'est une utopie. On peut manger n'importe comment tout en gardant une taille 34-36. Ce qui en fait effectivement une série assez irréaliste de ce point de vue-là. Mais je pense aussi, il faut se souvenir aussi que la série s'adresse à un public la chaîne Warner TV, c'était quand même plutôt pour un public adolescent. Donc effectivement, et puis même l'idée de voir une ado de leur âge manger de la junk food avec sa mère, alors que d'habitude, le rôle des parents, c'est un peu de dire « mange un peu moins de junk food et un peu plus de salade et de tomates et mange un peu plus sain », y a aussi quelque chose qui fait que le rapport à la nourriture, justement, c'est un très bon miroir de leur relation, où c'est tout le temps à manger pour plusieurs, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est burger, pizza, c'est quelque chose qu'on partage comme nourriture.
Et puis pour le coup, c'est une nourriture réconfortante.
C'est réconfortant, et puis voilà, on regarde la série à l'automne, on a envie de manger un cinnamon roll, de boire un pumpkin spice latte, et de mettre du sirop d'érable sur ses pancakes, et là je me donne faim toute seule. Mais voilà, c'est aussi un peu une sorte de... Oui, c'est utopique, mais je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui fait du mal, c'est-à-dire on en sort en se disant « Ah, si seulement, bon, on peut se faire des pancakes ou des burgers, et voilà. »
En même temps, finalement, quand on y pense un peu, le burger et les pancakes, c'est un peu le bœuf bourguignon en France. Enfin, je veux dire, c'est la plupart des Américains, c'est ce qu'ils mangent près de chez eux. C'est ils vont diners bon. Et ils prennent un. Oui, je veux dire, c'est un peu la nourriture locale.
Donc, j'imagine le bœuf bourguignon au petit déjeuner. C'est un peu bizarre, mais
ouais, ça fait un taux de protéines.
Ça tente, ouais.
Lorsqu'en 2007, Netflix produit 4 épisodes supplémentaires, on apprend que Rory, qui était promis à un avenir brillant, n'a pas trouvé de boulot à la hauteur de ses diplômes, et donc elle revient à Star Hollows. Et est-ce que finalement, c'est pas aussi ça la leçon, c'est que finalement, si on veut que les choses se terminent bien, il faut rester à Star Hollows, parce que quand on va ailleurs, on n'a pas un boulot à la hauteur de son diplôme, on a des galères, etc. Il y a des non-dits.
Moi, je dirais que peu importe l'endroit où est Rory, elle aurait été confrontée à ça de toute façon, sans trop spoiler. En plus de ça, elle renoue avec un homme de son passé qui en plus n'est pas célibataire. Donc dans tous les aspects de sa vie, c'est un petit peu la catastrophe. Et j'ai eu l'impression que ces 4 épisodes, c'était un peu l'enjeu de comment ne pas ressembler à sa mère, justement, comment éviter de reproduire les erreurs un peu du passé. Et on voit effectivement que même Rory, en fait, n'est pas immunisé contre ça. Et c'est ça qui rend cette mini-série, je trouve, assez frustrante. Mais en même temps, je peux comprendre ce qu'a tenté de faire Amy Sherman-Palladino. Après, voilà, j'avoue, la fin en tant que telle m'agace un peu, mais je peux comprendre pourquoi c'est une fin pareille.
Pauline Le Gall ?
Oui, j'étais en train de me dire que toute la série réfléchit un peu aussi au privilège de Rory, en fait, parce qu'elle elle a finalement toujours le privilège de ses grands-parents qui sont un peu comme
une bouée de sauvetage.
Une bouée de sauvetage, exactement. Elle sait qu'ils sont là, donc elle n'est jamais non plus... Enfin, on nous fait un peu miroiter qu'elle n'a pas d'argent, mais elle sait toujours qu'elle a ça derrière. Donc la dernière saison, elle est un peu triste parce que ça la rattrape. Après, je dirais que quand on connaît l'état du journalisme, c'était aussi réaliste. Et je pense que si on nous avait fait une seule scène de City en disant elle a fait une carrière incroyable dans le journalisme et maintenant elle est riche, voilà, peut-être qu'on aurait trouvé ça étrange aussi.
On aurait entendu tout un tas de journalistes se défenestrer d'un coup.
Voilà, c'est ça. Vous le savez, c'est assez intéressant. Après, moi, j'aime pas beaucoup cette mini-série et je la trouve assez décevante, mais pas forcément dans le sens où elle va dans ces endroits un peu réalistes de la réalité nous rattrape tous et toutes à un moment donné.
Bon, on va rester donc sur la série principale avant la mini-série. Merci beaucoup Marianne Lévy, merci Océane Zerbini, merci Pauline Le Gall d'avoir évoqué Gilmore Girls dans Blockbuster. J'aimerais remercier également Étienne Bertin qui réalise cette émission, une émission préparée par Lisiane Larbani et Benjamin Ducy, avec l'aide de notre stagiaire Amazir Amadaïn Guest. Et aujourd'hui à la technique, il y avait Benjamin Wagon, au mixage, et Corentin Rouchy. Comme toujours pour les messages, vous avez le répondeur au 01 56 40 30 20. Et si vous voulez parler avec moi sur les réseaux sociaux, il y a Instagram, @fredsigrist. Et demain, on va parler de la fratrie d'alchimistes la plus stylée de la galaxie manga, Full Metal Alchemist.
It's us, we're not here, we have a life, get over it.